Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Les premiers jours de la guerre d'Espagne. Le 18 juillet 1936, des généraux insurgés, dont Franco va prendre la tête, tentent de renverser la République espagnole et de prendre le pouvoir. La répression des putschistes contre leurs opposants commence dès le premier jour. En face, les collectivisations des terres et des usines se multiplient spontanément. On ouvre des écoles jusque sur le front. Les jeunes femmes prennent les armes. Pour certains, la révolution est en marche.
Je me rappelle que le 19 juillet,
Sarah Berenguer,
je fréquentais avec un maître d'école et on devait aller tous à la plage. Et le matin, il est venu à la maison. Et puis quand on partait vers la plage, dans une rue, en sens inverse, il venait un monsieur, il a dit, « Où vous allez ? » Parce qu'on allait tous habillés en blanc. « Où vous allez ? Il y a la révolution. » On a continué. Et puis quand on allait plus loin, encore on a trouvé une autre personne qui venait en dehors et dit, « Mais n'allez pas à la place d'Espagne, parce que les canons, ils sont en train de tirer. » On a dit, « Mais ça doit être vrai. » Alors, on a retroussé le chemin et on est rentré à la maison.
Vous habitez dans quel quartier ?
La Scorche, où il y avait la prison, parce que maintenant, ils ont sorti cette prison. Et alors, on est reparti à la maison. Et quand on arrive à la maison, on a entendu des gens qui disaient, « Ils vont laisser échapper les prisonniers politiques, ils vont sortir, ils vont sortir. » Alors, mon fiancé est parti chez lui, et moi, chaque moment, je sortais à la porte. Comment qui sont les prisonniers politiques? Moi, j'avais jamais entendu parler ni des prisonniers politiques, ni tout ça. Alors, j'étais étonnée. Ils vont les laisser partir. Et puis, ils font une barricade. Moi, je voulais aller vers la barricade, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais rien de rien. À moitié du matin, ils ont passé des voitures. Et quand ils passaient des voitures, ils klaxonnaient. Ce n'était pas. Et il s'est arrêté presque en face de chez nous, une voiture, il a dit, écoute, c'est pas seulement de crier, on va mettre notre drapeau sur le capot de la voiture. Ils sont descendus, il a dit, mais on n'a pas de ficelle. Et moi, quand j'ai entendu ça, je suis rentrée chez moi, vite, vite, je suis sortie avec des ficelles pour leur donner. Gracias, compañera. On connaît, compañera, c'était beaucoup pour moi, ça. Et ils ont attaché, puis ils sont partis.
Un matin de juillet,
Carmen Plaza,
on a été réveillé par l'aviation qui est venue nous bombarder. On est parti dans une grotte en dehors de la ville, puis là on a passé la journée. Et quand mon père a voulu venir à la maison pour aller chercher du manger, il n'a pas pu rentrer, c'était déjà occupé par l'ennemi.
Vous saviez qui c'était l'ennemi, vous ?
Le Marocain sans doute, c'était à côté. Il disait l'homme moro en entrava. Donc, le jour que ça a été bombardé, ça a été déjà occupé aussi. Donc, il a fallu partir. Hein. La nuit, on est parti vers Malaga et on a marché toute la nuit. Et même le jour. Puis là, on a passé la Sierra Antequera. Et crois-moi que quand j'y pense, j'ai froid. Une sierra, c'est une montagne, mais ça faisait froid, et dans la nuit. Et bien, puis on n'avait rien, c'était l'été, on n'avait rien sur nous, on a sorti du lit. Et d'abord, on couchait habillé avec le peu qu'on avait sur nous. Moi, j'avais une robe, une petite robe blanche, c'est tout ce que j'avais. C'est à Malaga qu'après, on nous a donné des habits quand on est arrivé à Malaga.
Mais pas loin de chez moi, déjà, il a commencé une barricade. Alors mon père n'est pas venu de la journée, il n'est pas venu le lendemain. Et le surlendemain, il est venu. Et quand il est venu, notre façade, devant de chez nous, il y avait une usine, ils ont commencé à tirer des coups de fusil. Alors mon père est venu avec trois copains de plus, déjà avec le fusil au dos, et il est monté au premier étage, et je suis montée avec eux. Et alors, il y a eu un échange de tirs. Alors je me disais, si mon père tombe, je prends le fusil. Mais moi, j'avais eu un fusil à la main. Et ma mère d'en bas, il m'appelait, Sarah, descends, ils vont te tuer, descends, laisse-les, ils sont fous, descends. Mais moi, je ne descendais pas, je me disais, mais si on fait, mon père n'a rien fait, pourquoi? Alors j'ai resté là. Et puis au bout d'un moment, les coups de fusil, ils se sont arrêtés. Alors ils sont descendus. Et alors mon père a dit, attends, viens ici. Prends ses fusils. D'abord, il m'a fait voir comment il se montait, il se démontait, enfin, comment il fallait le charger. Et je l'ai fait. Il dit, bon, ça va. Alors, maintenant, tu sais déjà charger un fusil. Et ma mère, la pauvre, elle criait, désolé, désolé, qu'ils vont te tuer. Et puis après, ils sont partis. Et c'est que le lendemain, qu'il est venu, qu'il m'a dit, je m'en vais sur le front. Et ne lui dis rien à ta mère jusqu'à ce que tu auras passé la journée. Tu lui diras demain. Pour pas qu'elle soit angoissée. Parce que quand même, elle était ma mère avec 5 enfants. Moi, j'étais l'aînée, mais il y en avait une qui n'avait que 9 mois. Et c'est là que j'ai dit que je voulais partir avec lui, que je voulais défendre la révolution, la guerre, je ne sais pas moi. Et alors, on m'a dit, non, on va à la guerre, tu dois rester ici. J'ai dit, je voulais faire quelque chose pour la révolution. Il m'accompagnait dans un comité de quartier, un comité révolutionnaire, où j'ai resté jusqu'au mai. Mai 1937. Et ma mère, devant les événements, il ne pouvait pas faire autre chose.
Donc lui, il est parti dès...
Lui, il est parti, oui, il est parti sur le front. Mmh. Et 15 jours avant qu'il soit mort, ils leur ont donné 24 heures de repos. Il est venu à Barcelone, il a vu à ma mère, et puis il est reparti sur le front.
Aragon,
oui, Almodóvar. Et là, il a été tué par les morts.
Et j'imagine voilà. Que ça a renforcé vos convictions.
Oui, oui, parce que je me suis dit... Ce que voulait faire mon père n'y est pas, il veut me danser moi. Mmh. Et une fois, il y a un copain qui m'a dit, écoute, j'ai vu que tu n'as pas peur, est-ce que tu voudrais apprendre à piloter? Je dis oui, pourquoi pas. Et le dimanche, on ira au camp d'aviation et on fera un tour. Lui, il était aviateur. Et après, il m'a dit, bon, dimanche prochain, que ta mère te fasse une salopette et tu commences, je te donnerai les premières leçons. Alors mon frère, il lui a dit au maître d'école, et alors, dans la semaine, il est venu au comité révolutionnaire. On s'est mis dans la cour à parler. Et alors, il m'a dit, bon, que tu viennes ici, ça va. Mais que tu aies l'aviation, si c'est ça, on a fini. Je lui ai dit, écoute, on a fini. Ah non, mais ça, il ne te faut pas le faire, parce que autrement, je me fâche. Et c'est fini. Je lui ai dit, c'est fini. Parce que, bon, peut-être que je n'ai pas le courage, mais si je suis le courage, je le ferai. Et puis, il est parti. Et le lendemain, il est venu chercher le lendemain sur le main, ça va et tout ça. Et je lui ai rendu, et ça a été fini. Ma mère d'abord il s'est affolée, mais après quand même elle m'a fait la salopette, quand même elle m'a fait, oui. Et après par lui, il s'est mis dans l'ambiance.
Et on arrivait à Malaga, l'aviation venait bombarder les bateaux et la ville. Mais on les voyait, parce que moi pas, parce que j'avais peur. Mais les autres, ils se mettaient à la porte pour regarder. Je ne sortais pas, moi, j'avais peur, je pleurais. Ils rentraient. Ils ne voulaient pas rentrer. Ils voulaient voir les avions bombarder la ville et puis les bateaux. Et de Malaga à Almeria, qu'on a fait à pied aussi.
Le jour où vous êtes parti, il y avait d'autres familles qui partaient aussi comme vous?
Oh, on n'était pas seul, bien sûr que non, on n'était pas seul. Il y en avait d'autres qui partaient. Et puis là, d'Antequera à Malaga, moi. Mais enfin, on ne regardait pas en arrière tout ce qui venait derrière, mais de Malaga à Almeria, oh là 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 là. La route était pleine, et puis il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de... Enfin, on était à pied. Jusqu'à Malaga, Almeria, on était à pied. Et puis là, c'est à Motril. Alors, il est sorti du Marbelle à Motril. Et ils nous venaient nous mitrailler. Pas nous bombarder, nous mitrailler. Là, c'était pire. Voilà.
Quand les avions arrivaient, qu'est-ce qui se passait?
Eh bien, on continuait. Tu n'avais rien pour te mettre. On continuait, puis tu penses que nous ne bombardions pas tout le temps. Mais quand ils avaient fini, puis s'en allaient. Il y avait des murailles comme ça, je me rappelle, il y avait deux murailles dans les deux côtés de la route pendant des moments, mais pas tout le temps. Hein. Et on se mettait contre la muraille parce qu'ils nous bombardaient, ils nous mitraillaient. Ça, là, je ne peux pas te raconter ça, mais là, je ne peux pas. Parce que tu me vois.
Au Maroc, l'insurrection a éclaté un jour plus tôt, le 17 juillet 36. Le jour même, Francisco Lara est jeté en prison, mis au secret, puis placé dans un camp. Son crime ? Faire partie d'un cercle ouvrier qui dispensait des cours du soir.
El Mogote era un campo.
C'était un camp qu'ils avaient organisé pour des prisonniers de toutes sortes, civils et militaires. Ce n'était pas loin de la capitale, de Tétouan. Toutes les nuits, ils venaient une camionnette de Tétouan avec des phalangistes. Ils apportaient une liste de 5 ou 6 personnes. Le camp était composé de grandes tentes de campagne coniques. On entendait tout. Ils les emmenaient avec la camionnette jusqu'à Tétouan, et à la moitié du chemin, ils les fusillaient, tous les jours. Les gens du camp l'appelaient la camionnette du boucher. Le chef du camp était un capitaine phalangiste, avec la chemise bleue de la phalange sous son uniforme, un fasciste espagnol. En plus de la camionnette qui venait tous les jours, un jour, on ne sait pas pourquoi, il a pris 36 personnes à l'intérieur du camp. Ceux qui gardaient les camps étaient des soldats morts, ils ont fait des files de 10, et les morts les fusillaient. La dernière file, ils étaient 6, et parmi eux, il y avait un jeune de Tétouan qui n'avait pas plus de 16 ans, que je connaissais. Les morts ont tiré, mais lui, ils ne l'ont pas tué. Les 5 sont tombés, mais lui est resté debout. De voir un jeune si jeune, ils n'ont pas tiré. Alors après, ils ont tous tiré sur lui, ils l'ont tué. Des camionnettes sont venues emporter les morts au cimetière de Tétouan. Le cimetière de Tétouan est dans une montagne, ce qui veut dire que les camionnettes, en montant au cimetière, ont laissé des traces de sang par terre. Bien sûr, sur le chemin du cimetière, il y avait des gens de toutes sortes. Il y avait des Marocains, des Espagnols, et ça fait un scandale. Des rumeurs ont couru comme quoi c'était le calife, le représentant du sultan marocain qui est intervenu auprès du haut commissaire en disant que lui, il ne voulait pas voir ce genre de massacre au Maroc. Ils nous ont mis dans des camions et ils nous ont emmenés à Ceuta. À Ceuta, c'était le territoire espagnol.
Mon oncle Manuelo, ils l'ont tué. Mon autre oncle, ils l'ont tué. Deux tantes. Ma mère emprisonnée pendant 4 ans et demi. Une tante condamnée à mort avec une petite fille de 20 jours. Et moi toute seule avec mes 4 frères. Je n'avais pas un an.
Il y a trois jours différents qu'on a fusillé des gens ici.
Mariano Constant.
Et on nous a fait enterrer à nous. Alors il y avait moi qui avais ses sangs, là. Et puis il y avait le signor Alberto, qui était un vieux républicain qui avait déjà pas loin de 80 ans. C'est-à-dire qu'il nous prenait 8 ou 10, mais des républicains, ou fils de républicains, ou frère, ou père, ou le fils, enfin bref. Et c'était nous, il les fusillait dehors, contre les murs du cimetière. Il les laissait par terre dans son champ de blé, le champ de blé, et après il fallait rentrer dedans et dans son trou, faire un trou et puis les mettre dedans. Et ça, évidemment, ça m'a frappé parce que j'ai été obligé d'enterrer la mère d'un de mes meilleurs copains d'enfance.
C'était en 37, ça?
Non, c'était en... c'était fin 36, c'était octobre, par là, de 36. Et vous savez, c'est dur, hein. Et après, j'ai compris que c'est peut-être pas moi qui allais les ramasser, mais que c'est quelqu'un d'autre et que nous, on ferait le trou. T'en fiches, moi, quand on est arrivé là-bas, il y avait 12 fusillés, et il a fallu les passer par-dessus le mur et les enterrer à l'intérieur. Et ils avaient pris déjà la vie. Ils sont venus trois fois à tuer des gens. Ils avaient toujours, dans ma tête même, j'ai pensé des fois, j'ai dit les trous de balles qu'ils avaient vus dans les murs, parce que alors, je m'avais dit que, vous voyez pas que les tuaient comme ça, et non, ils arrochaient des balles, tout ce qu'ils tuaient là-dedans. Et je dis, j'irai un jour, parce qu'en plus de ça, les témoignages, et moi je peux dire à quel endroit était, et même, je suis certain qu'il doit y avoir des trous. Et effectivement, quand je suis allé à Loiret en 1960 déjà, le premier voyage qu'on m'a laissé rentrer en Espagne, j'étais là-bas, et j'ai vu effectivement ce que j'avais dit.
Mariano Constante est le fils de l'instituteur recherché par les franquistes dès les premiers jours de la guerre.
Quand mon père s'échappe et qu'il ne peut pas nous prendre à nous, ils sont tous détruits. La maison de l'instituteur, ils sont tous détruits. Ma mère, qui avait une volonté, quelque chose d'incroyable, elle faisait face au garde civil et puis elle disait « Non, moi je ne vous fuis pas. Fusillez-moi ici, à l'entrée de notre maison, mais je ne vous suivrai pas. » On a été devant le peloton d'exécution, attention, on s'est mis tous face au mur, tous les cinq. Mon frère qui avait 8 ans, et ma soeur, mon autre frère, et ma mère, et moi, naturellement. Et les fascistes en train de chercher les fusils pour nous. Et quand ils avaient commencé à donner des ordres déjà, à Punten, Carguen, et à la dernière seconde, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Enfin, ils nous sont laissés, ils sont partis. Et quand ils sont expulsés, ils arrêtent ma mère. Ils arrêtent ma mère pour l'amener en prison. Et ils l'ont amené à Jaca, qui était la dernière ville espagnole importante avant la frontière. Et ils l'ont fermé là-dedans, et donc c'est pour la liquider aujourd'hui ou demain, un de ces jours. Voilà. Et je ne sais pas comment elle avait su, nous, elle savait que les franquistes, ils avaient l'intention de mobiliser de 15 ans à 55 ans. Et elle me dit, toi, tu as déjà 16 ans. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu, comme ton père. Et 8 jours après, avec 5 copains de Ringlos, là, de Villas, et ils étaient plus vieux que moi. Il fallait qu'ils s'engagent. Moi, je vais m'échapper. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui me reste sinon? Mourir là-bas ou mourir ici à côté du cimetière? Ben non, je vais tenter et on verra bien. Et on est parti. On est arrivé les 5, on est arrivé sain et sauf par la Sierra à Orin républicaine.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de 3 générations. La guerre d'Espagne, les premiers jours. Un documentaire de Marianic Bello pour Radio Languedoc et la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Avec Sarah Berenguer, Carmen Plaza, Francisco Lara, Monsieur et Madame Vicente et Mariano Constante. Témoignages recueillis
par Manuel Plafa et Marianique Bello. Musique originale de Guillaume Séguron. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, Direction de la culture et du patrimoine.